Dans les contes, on grandit vite. La petite fille joyeuse est devenue une splendide jeune fille qui a un appétit d'ogresse et surtout de longs cheveux noirs qu'elle peigne chaque jour avec application. Peigne d'ivoire dans la longue chevelure noire. Yegvala, grâce à sa beauté, aurait pu prétendre émouvoir un jeune homme aisé, mais voilà qu'elle tombe amoureuse d'un pauvre tzigane, Zlato le forgeron. Un beau garçon, mais un coureur de jupons qui cherche une femme riche à marier. Yegvala ne l'intéresse pas du tout. Alors, la belle décide d'user de ses pouvoirs. Elle tue une poule noire et enduit sa porte de la graisse de l'animal. Elle déchire sa chemise en 3 lanières. Elle fait 9 nœuds. Dans les 8 premiers nœuds, elle plante une épingle. Elle en garde une dans la bouche et murmure 99 fois « Zlato, Zlato, Zlato ». Puis, elle pique cette épingle dans le dernier nœud. Zlato, quant à lui, est à un rendez-vous avec la fille d'un gros fermier. Celle-là est riche. Il veut l'épouser. Il la prend dans ses bras, ses lèvres se tendent pour l'embrasser. Au même moment, Yegvala, avec son pied, enfonce fermement la 9e épingle dans le 9e nœud. Aussitôt, Zlato sent un point douloureux au cœur. Il lâche la fille du fermier, la laisse là, éberluée, et s'enfuit. Ses pas le conduisent malgré lui jusqu'à la roulotte de Yegvala. Envoûté par la sorcellerie ou par les charmes de la belle tzigane, sans doute les deux à la fois, Zlato devient fou amoureux. Elle, de son côté, fait la fière, le repousse un peu, l'attire vers lui puis se détourne pour revenir le lendemain avec le sourire. Bref, elle harponne son cœur et un jour, transi de peur, il la lui demande en mariage. Elle répond « Oui !» et se jette dans ses bras. Elle quitte alors sa petite roulotte et va vivre dans la forge de son mari. Bonheur, amour, tendresse et tout ce que vous voudrez. Mais au bout de 7 ans, le forgeron s'inquiète. Sa femme lui a déjà donné 5 enfants. Tant de bouches à nourrir, il a beau travailler, la misère va bientôt les frapper. Et puis, il trouve étrange, presque inquiétant, de voir que Yegvala ne semble se soucier de rien. Pleine d'énergie, elle accomplit ses lourdes tâches quotidiennes, elle aide les voisines épuisées, elle chante et elle rit comme au premier jour. Mais surtout, à chaque naissance, elle semble de plus en plus belle, de plus en plus jeune. Et lui, fasciné, la regarde peigner ses longs cheveux. Peigne d'ivoire dans la longue chevelure noire. Et quand il lui fait comprendre qu'il devrait cesser de faire un enfant presque chaque année, elle lui répond « Pourquoi ? Je ne suis pas fatiguée !» Et elle l'embrasse avec fougue. Zlato va alors voir la vieille Mara, connue pour sa sagesse. Elle lui dit « Regarde ce que fait ton épouse la nuit de la pleine lune !» Si tu devines à son comportement que c'est une sorcière de la race de celles qui sont toujours belles et jeunes, alors tu devras la brûler. Brûler ma femme? Mais je l'aime. Alors fais-le par amour, pour sauver tes enfants, toi et elle-même, des flammes de l'enfer. Si son corps brûle, son âme sera sauvée. Si elle reste auprès de vous, vous serez tous damnés. « Oh, sorcière Yara, pourquoi as-tu lancé au-dessus de son berceau « Yegvala sera d'une beauté inégalée qui jamais ne se flétrira ?» Zlato ne sait pas s'il croit aux flammes de l'enfer. Il sait en tout cas qu'il ne veut pas vivre auprès d'une sorcière qui pourrait un jour faire du mal à ses enfants. À la pleine lune suivante, il fait semblant de s'endormir profondément. Les yeux mi-clos, il aperçoit sa femme qui se lève sans bruit, attise le feu dans la cheminée, sort de derrière l'unique armoire une petite marmite et une boîte. Elle pose la marmite pleine d'eau sur le feu et, tout en dansant, elle murmure d'étranges incantations. Quand l'eau se met à chanter, elle sort de la boîte des feuilles, des fleurs, un squelette d'oiseau, un serpent desséché, des boyaux d'animaux encore sanguignolants, une poignée d'araignées. Elle s'arrache avec violence une mèche de cheveux et jette un à un ses ingrédients dans l'eau bouillante. Puis, elle tend son bras gauche, empoigne un couteau et se taillade la peau. Quelques gouttes de son sang coulent dans la potion. Elle retire la marmite du feu, elle remplit un bol de cette soupe infâme et la boit d'une longue traite. Puis, elle cache ses ustensiles, sort silencieusement dans la nuit et se dirige vers la forêt. Au matin, elle est aux côtés de Zlato et s'étire comme après un calme repos. Lui ne dit rien et se lève. Dans la cour, il allume un grand feu, puis il l'appelle. Elle vient vers lui, souriante et fraîche. Il lui tend les bras comme pour l'embrasser. Soudain, il la prend fermement, lui ligote les poignets puis les jambes. Elle se débat, hurle. Lui ne la regarde pas pour ne pas fléchir, et doué de la force du désespoir, il la jette dans le feu en s'écriant « Je le fais pour nous sauver tous, toi, moi et nos enfants !» Et horrifié, il court se réfugier dans la maison. Au-dessus du berceau de la belle, n'avait-on pas prédit « Celui qui l'aimera voudra la tuer ?» Les flammes semblent ne pas la toucher et font comme un cercle de feu autour d'elle. Car à sa naissance, une moire avait dit « Le feu ne pourra la brûler ». Malgré ses liens, elle se tord et siffle entre ses dents « Je me vengerai !» Et elle disparaît comme par enchantement dans un tourbillon de vent qui tourne autour de la branche d'un arbre et vient y déposer une belle rose rouge.